Et c'est vrai que bon, je vais rebondir sur ce que notre sœur là nous a transmis, les salutations des frères et des sœurs. Et c'est vrai que nous pouvons penser à ceux et celles qui étaient un jour assis ici, il y a voilà, des années passées. Nous savons que peut-être beaucoup sont dans d'autres églises pour des raisons diverses, liées au travail, liées à voilà, des changements de la vie qui fait qu'on est obligé de se déplacer. Voilà. Mais lorsque nous pensons aussi à d'autres, nous savons aussi que leur absence n'est pas le fait d'un départ lié au fait du travail, et puis que nous savons que ces personnes sont en fréquente ou sont dans une autre église et servent le Seigneur dans d'autres églises, ce qui est vraiment pour la gloire de Dieu. Mais nous savons aussi que beaucoup qui auraient pu être là ne sont pas là parce que ils ont fait le choix d'abandonner. Ils ont fait le choix d'abandonner le Seigneur, de suivre une vie qui n'honore pas le Seigneur, ou se sont détournés pour aller dans d'autres voies, d'autres églises, d'autres communautés, où on sait que la parole qui est prêchée n'est pas forcément toujours conforme à la vérité. Et ces choses-là nous attristent. Ces choses-là nous attristent. Et l'apôtre Paul, il écrit la lettre aux Galates pour encourager les chrétiens, mais leur dire aussi, faites attention. Il y a un danger là pour vous, parce que ces chrétiens de Galates, au lieu de continuer à avancer, certains étaient influencés donc par ces faux docteurs, et certains ont peut-être abandonné, mais en tout cas, ils étaient ils étaient en train de reculer. Et même l'apôtre Paul dit, mais vous courriez bien, qui vous a arrêté? Et le passage que nous allons lire ce matin, et en cela, j'aimerais nous encourager, nous tous, à justement tenir bon. À nous encourager à continuer la course dans laquelle nous nous sommes engagés. Et ce texte nous encourage à cela, d'autant plus aussi que nous sommes dans une période difficile où on est troublé par toutes sortes de choses liées à l'actualité. Et oui, notre âme est abattue aussi. Donc, il faut tenir bon. Il faut continuer la course. Il ne faut pas baisser les bras. Et ce texte, par la grâce de Dieu, nous encourage, l'apôtre Paul encourage à demeurer ferme dans la liberté. Puisque ces chrétiens de Galates étaient confrontés à ces faux docteurs qui voulaient que ces chrétiens se fassent circoncire pour s'appuyer sur la loi de Moïse, alors que l'apôtre Paul, il explique dans les textes que nous avons vus, dans les chapitres 3 et 4, que pourquoi Dieu il a donné la loi, et que maintenant nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et dans ces églises de Galatie, il y avait des personnes qui étaient là, qui confessaient le nom de Jésus, mais malheureusement voulaient revenir en arrière et retourner à la loi. Et donc, pour nous, ce n'est pas de faire machine arrière. C'est de continuer à avancer, rester attaché à la parole que nous avons reçue, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Et ces difficultés-là que nous rencontrons sont là aussi pour éprouver notre foi, pour nous montrer quelle est la réalité de cette foi. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas... faut pas se raconter d'histoire. Faut pas se raconter d'histoire. Et dans ce texte, l'apôtre Paul dit que si vous faites circoncire, ben, Christ ne vous servira à rien. Vous êtes déchus de la grâce. Et nous sommes tous au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous avons lu ce texte de Tite qui dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce-là, nous manifestée en Jésus-Christ, nous l'entendons, nous le voyons. La question, c'est, est-ce que, pour certains, est-ce que vous allez saisir cette grâce et vous y attacher? Ou est-ce que vous allez dire, bon, finalement, ça ne m'intéresse pas et je veux continuer ma vie comme je la vis, comme bon me semble? Et pour d'autres, dire, oui, j'ai saisi cette grâce, je veux rester attaché à elle, rester debout et continuer ma course jusqu'à la manifestation de cette grâce qu'est Jésus-Christ qui revient, mon Sauveur. Alors lisons ce passage de Galates chapitre 5. Nous allons lire les 12 premiers versets. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Nous allons donc nous arrêter là pour la lecture de ce matin. Donc l'apôtre Paul encourage ces chrétiens à demeurer fermes dans la liberté que Christ leur a acquise par son propre sang. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui apporte une pleine liberté. Et c'est vrai que nous voyons dans l'actualité des personnes qui prônent le fait de maintenir et de garder notre liberté. Ils ont raison. Mais ces personnes qui disent de maintenir, ils se battent pour la liberté, et en ça ils ont raison, mais ces mêmes personnes privent d'autres de leur propre liberté. Ils ont tort. Donc, au fait, la question de la liberté, c'est tout relatif pour les uns ou pour les autres. Mais cette vraie liberté, le Seigneur nous libère de quoi? Il nous libère de la malédiction de la loi, il est dit. Tous les hommes sont sous la coupe de cette malédiction, puisque tous les hommes sont pécheurs. Et nous sommes, ou nous étions tous esclaves de Satan, nous étions tous esclaves du diable. Le Seigneur Jésus dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable, et il est menteur dès le commencement. Et vous, vous êtes le menteur aussi. Et lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ, il nous libère. Il nous libère de l'emprise que le malin pouvait avoir sur nous. Et c'est ça aussi que si lorsqu'on se tourne vers Jésus, il faut dire que oui, le Seigneur va te libérer. C'est ça ton problème. Tu es encore esclave. Le Seigneur va te libérer. Et il nous apporte donc la pleine liberté. Et nous pouvons dire oui, nous pouvons dire non. Nous sommes libres de ne plus être esclaves de quoi que ce soit. Le Seigneur nous apporte cette pleine liberté. Et il est important de se le rappeler. Et lorsqu'on est face à des choix, nous pouvons en toute liberté dire oui, ça je vais faire, ça je ne vais pas faire. Je pourrais le faire si je veux, mais j'ai fait le choix de ne pas le faire parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. C'est ça la vraie liberté. Lorsqu'on a le choix et qu'on choisit en conséquence de cause. Donc, le danger pour les Galates était donc de se laisser mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et ce qui donc se traduirait par un retour en arrière. Le Seigneur les a libérés, mais ils voulaient revenir en arrière et se remettre sous la servitude. Mais être libre en Christ ne veut pas dire que l'on est libre de faire n'importe quoi parce que l'on est maintenant tout simplement sous le joug de Christ. Le Seigneur nous libère de l'emprise du mal, de l'emprise du péché, nous libère de la malédiction de la loi. Il nous libère de ce fardeau que nous avions, ce fardeau qui est le péché. Il nous libère de ce fardeau et il ne nous dit pas, voilà, maintenant tu es là comme ça et puis laisse le vent t'emporter. Et puis non, il dit, je te libère et maintenant ce fardeau que tu as, je l'enlève et c'est moi qui l'ai porté pour toi à la croix. Et maintenant tu peux avancer avec moi. Parce que tu es maintenant sous mon joug. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug sur vous, il dit. Recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous. Donc le chrétien, donc celui qui se tourne vers Christ, qui a reconnu qu'il a ce fardeau et qu'il a besoin d'être libéré de ce fardeau, le Seigneur lui dit, mais c'est pour toi aussi que j'ai donné ma vie. Et donc lorsqu'on met sa foi en Jésus-Christ, il nous enlève ce fardeau. Il nous libère de cette charge. Et il nous met sous son joug. Et nous avançons avec lui. Et c'est nous savons qu'il est là à côté de nous, que nous ne sommes pas seuls. Et que c'est tout le poids, c'est lui qu'il porte. Il avance et nous avançons avec lui. En pleine liberté. Et donc, si on est sous le joug de Christ, On est libre. Et certains peuvent passer à côté de cette grâce. Donc, au verset 13, on va le lire après, mais l'apôtre Paul dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. » Vous voyez ? Donc, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, mais ce n'est pas parce que vous êtes libre que vous pouvez faire n'importe quoi. On devient même esclave de Jésus-Christ. On devient serviteur de Jésus-Christ et on fait ce qui est bien, ce qui honore notre Seigneur. Dans ce passage, il y a un avertissement que l'apôtre Paul donne donc à ces chrétiens. Et quand je dis ces chrétiens, je veux même mettre des guillemets. Parce que le danger pour le chrétien, quel est ce danger s'il se soumet à cette fausse doctrine qui leur disait, voilà, vous devez vous faire circoncire. Il dit que si le croyant se fait circoncire, ou s'il pense qu'il peut plaire à Dieu par ses propres forces, ou s'il devient esclave de quoi que ce soit, ou même de qui que ce soit, cette personne perd le bénéfice qu'elle a reçu de Jésus-Christ. dans les versets 1, il dit, donc c'est pour la liberté que Christ vous a affranchie, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est se priver des bénédictions que le Seigneur nous a acquises. Il dit au verset 2 que, voici moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Il ne peut pas faire, Christ ne leur servira à rien car il ne peut faire son œuvre en aucune personne qui finalement n'a pas envie de dépendre de Christ. Si on ne veut pas que Christ agisse en nous, Christ n'agira pas en nous. Donc Christ ne nous servira à rien. Mais je disais tout à l'heure là qu'il s'adresse à ces chrétiens, mais ces chrétiens, je mets les guillemets. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme cette parabole, la parabole du semeur. Le Seigneur, il dit que ce semeur, il jette donc sa semence et cette semence tombe dans différents types de terrains. Et dernièrement, notre frère Marc nous avait parlé de cette parabole. Et dans cette parabole, le Seigneur met en lumière quoi? Que cette semence qui est la parole de Dieu que nous entendons tombe dans différents types de cœurs. Et ça peut être cet endroit pierreux, cet endroit plein d'épines, cet endroit où voilà, l'ennemi vient enlever ce qui a été semé. Après, il dit, il y a la semence qui tombe dans de la bonne terre. Et finalement, dans ces différents types de terrains, on pourrait dire que le chrétien véritable, c'est celui dont la semence est tombée dans la bonne terre et qui porte du fruit. Et donc, et dans l'assistance, dans l'assemblée, il peut y avoir ces différents types de terrains. Et tout à l'heure, et en introduction, je disais aussi que si on fait l'état des lieux et on se dit, mais où sont les uns et les autres, ceux dont on sait qu'ils ne sont pas à l'église en train de servir le Seigneur, ils sont pas partis parce que c'est à cause des circonstances professionnelles ou autres, mais ils sont toujours assez fidèles au Seigneur, ils servent le Seigneur. Ça, c'est à part. Mais nous savons aussi que beaucoup sont dans le monde. Beaucoup font le choix d'abandonner l'Église, d'abandonner la parole de Dieu pour vivre leur vie. Donc, cette semence qui est tombée dans ces différents types de terrains. Et ces personnes, on peut les appeler des chrétiens. Mais quand on ne veut pas dépendre de la grâce de Dieu, alors on se prive de la grâce de Dieu. On se prive de ce que le Seigneur pourrait faire dans une vie. Et il dit, Christ ne vous servira à rien. Il dit, et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Il dit, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Ça veut dire, la justification, ça veut dire que vous qui cherchez à être déclaré juste par Dieu par le moyen de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Parce que c'est pas possible. C'est pas... si vous cherchez à être déclaré juste par Dieu en faisant des choses, c'est pas possible parce que le salut c'est par la foi seule et que c'est une grâce de Dieu qu'il faut juste saisir par la foi. L'apôtre Pierre, il parle de ces faux docteurs, mais aussi de l'influence que ces faux docteurs ont sur des personnes mal affermies ou jeunes dans la foi, ou je dirais ces personnes qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux ou dans les épines, etc. Dans 2 Pierre chapitre 2, donc il y a toute une description qui est faite de ces faux docteurs, et il explique que Il cite plusieurs faits de l'Ancien Testament pour montrer que Dieu ne va pas laisser impunis ces gens-là. Et après, il dit au verset 17, il dit « Ces gens-là sont des fontaines sans eau. » 2 Pierre chapitre 2, verset 17. « Ils sont des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est triste, mais c'est une réalité. Donc, c'est à chacun d'examiner son cœur pour dire, mais est-ce que j'ai vraiment saisi la grâce du Seigneur? Cette grâce qui a été manifestée, source de salut pour tous les hommes, Jésus-Christ. Est-ce que j'ai vraiment mis ma foi en Jésus? Et si... parce que dans ce texte, l'apôtre Paul nous dit, on ne peut pas être un chrétien assis sur deux chaises. On ne peut pas être un chrétien assis sur deux chaises. Il faut faire un choix. Et quand il dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Il donne cet avertissement-là à chacun. Faites attention. Ne vous leurrez pas, ne vous racontez pas d'histoire. Après, il continue, mais il dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Vous voyez, l'apôtre Paul, dans ses textes, lorsqu'il parle, il dit, vous êtes séparés... vous tous qui cherchez là, il s'adresse vraiment à un public bien particulier. Et lorsqu'il dit nous, bon, lui sachant ce qu'il avait dans son cœur, sachant qu'il appartenait au Seigneur, mais en s'identifiant aussi à tous ceux qui, comme lui, croyaient dans le Seigneur et qui avaient cette merveilleuse espérance, il voit la perspective différente. Et donc, en cela, chacun de dire, voilà, lorsque l'apôtre Paul dit, pour nous, est-ce que je suis dedans? Est-ce que je suis dans le « nous » là? Est-ce que je peux m'approprier ce pronom et dire, voilà, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit. Donc, il y a un avertissement qui est adressé à tous ceux qui entendent la parole de Dieu, que si vous cherchez à la justification, il parle de la justification, si vous cherchez à être sauvé par vos propres forces, en pratiquant la loi, etc., eh bien, Christ ne vous servira à rien. Par contre, si vous cherchez, si vous croyez que pour être sauvé, que c'est en croyant en Jésus-Christ seul, et que le salut de Dieu, c'est une grâce qui vous est offerte, alors... vous saisissez sa main par la foi et il dit oui, vous êtes maintenant mon enfant, maintenant ce que j'attends de toi, ce que je te demande, c'est que tu tiennes bon et que tu continues. Et c'est cet encouragement que j'aimerais nous adresser, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui savons que nous avons mis notre foi en lui et que nul ne nous ravira de sa main. Nul, l'apôtre Paul dit dans Romains, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Personne. Donc lorsqu'on a mis sa foi en Jésus, on a cette assurance. Et donc, c'est en ça que je dis que quand il dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi », oui, vous êtes séparés de Christ, mais par contre, si vous avez mis votre foi en Jésus, rien ne peut vous séparer de Christ. Alors, quelques encouragements pour nous, pour que nous tenions bon, que nous demeurons fermes dans cette liberté et que nous continuions cette course, parce que l'apôtre Paul il utilise toujours ces images-là pour parler de la vie chrétienne. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez bien. Ça parle de la vie chrétienne, tout simplement. Et donc, oui, frères et sœurs, pour que nous puissions continuer cette course, pour que nous puissions continuer à avancer et tenir ferme, trois encouragements pour nous, et comment nous pouvons le faire, c'est déjà, en attendant, il est dit au verset 5 et 6, il dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Donc, cette première chose, on peut demeurer dans cette liberté, on peut continuer cette course, là, en attendant cette bienheureuse espérance. L'espérance de la justice, qui est le retour de notre Seigneur Jésus. Le chrétien, celui qui appartient au Seigneur, doit toujours avoir en tête cette réalité, Jésus-Christ qui revient, Jésus-Christ qui revient bientôt. Et si on ne baisse pas la tête, si on garde toujours les yeux tournés vers Jésus-Christ, nous allons continuer à tenir. Et ce qu'on entend à la télé, ce qui se passe autour de nous, ça n'affecte pas notre foi. Et l'apôtre Paul dit que oui, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Par la foi, parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit, que Jésus-Christ reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. » Oui, donc notre foi est basée sur la parole de Dieu et c'est par la foi que nous attendons notre Seigneur. Par l'Esprit aussi, parce que nous avons reçu son Esprit et son Esprit qui est en nous nous rappelle ces vérités. Et donc, lorsque, comme le psalmiste, notre âme, nous sommes tristes, nous sommes... Ah, l'Esprit nous rappelle, mais... Ne t'inquiète pas, le Seigneur Jésus revient bientôt. Tu seras avec lui, tu seras dans la paix, il est en train de te préparer une place. Donc, ces choses-là qui sont là autour de toi ne doivent pas t'affecter au point que tu puisses être découragé. Non, mais souviens-toi que le Seigneur, il est venu, il a donné sa vie pour toi, il est reparti, il est en train de te préparer une place. Voilà, et l'Esprit de Dieu que nous avons reçu est là en nous et nous rappelle ces vérités. Et on attend cette merveilleuse espérance par une vie de foi qui est agissante. On n'attend pas juste en étant là, assis, sans rien faire. Non, mais seulement la foi, mais qui est agissante par l'amour. Oui, donc c'est une foi qui est agissante, une foi qui se met en action. Et comment on peut mettre cette foi en action si ce n'est qu'en servant, en aimant notre prochain, en servant le Seigneur avec ceux qui lui appartiennent. L'autre chose, dans les versets 7 à 10, l'apôtre Paul leur dit, vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Donc, comme je le disais, il y a l'attente du Seigneur, mais aussi le fait de continuer notre course chrétienne. Continuer à tenir ferme, continuer à avancer, même si on est découragé de voir, tiens, mais c'est le frère ou la sœur que j'aimais tant, elle a abandonné et il a choisi une autre voie, ça nous attriste. Mais ça ne doit pas nous décourager au point que nous-mêmes nous abandonnions. Il faut continuer la course. Et la vie chrétienne, l'apôtre Paul utilise l'image de la course pour dire, en fait, c'est ça la vie chrétienne. Et là, dernièrement, il y a eu les Jeux Olympiques. Ces personnes qui travaillent des années et des années pour arriver avec comme seul objectif d'avoir la médaille d'or. Et là, ils viennent de terminer, mais ils pensent déjà à 2024. Et ils vont travailler pour ça. Mais l'apôtre Paul dit que ça, c'est une des couronnes corruptibles. Mais nous travaillons pour une couronne qui est incorruptible. Mais cette image, et c'est en ça que j'aime beaucoup voir les Jeux Olympiques, il y a toute cette leçon, ces valeurs qui sont véhiculées là, de travail, de persévérance. Et la vie chrétienne, c'est ça aussi. Donc, voilà, il y a un prix à remporter et chacun doit dire, voilà, je veux remporter ce prix. Chacun doit dire, je veux remporter ce prix, je veux aller jusqu'au bout. Même si ma femme, elle abandonne, même si mon mari abandonne, moi je vais continuer. Il faut continuer cette course. Mais ces chrétiens de Galate, malheureusement, se sont arrêtés sous l'influence de ces faux docteurs. Et si nous voulons continuer cette course, il faut obéir à la parole. Il dit que ces gens qui vous arrêtent pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Donc il faut obéir à la parole de Dieu qui est la vérité, accepter ce qu'elle dit, et se soumettre à la parole. L'autre chose, pour continuer cette course, il dit, je souligne l'importance de connaître la source de celui qui veut nous influencer. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Celui qui sème le trouble, celui qui me décourage, mais ça vient d'où là? Comment cette influence-là vient d'où? Est-ce que ça vient de Dieu ou autre chose? Certainement pas de Dieu. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc il faut identifier la source du problème. L'autre chose, verset 9, il faut éviter la compromission. Il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Dans le Corinthiens, l'apôtre Paul utilise cette image aussi. Donc oui, un peu de levain, que si nous acceptons juste un peu de levain, alors ça fait lever toute la pâte, donc c'est toute la pâte qui est infectée. Donc ne pas accepter la compromission. Et la dernière des choses, pour demeurer ferme dans cette liberté, c'est aussi en acceptant les souffrances. Il y a une part de souffrance, et je pense que je le dis assez souvent, à chaque fois que le texte en parle, j'en parle, parce que c'est une réalité. Il y a une part de souffrance que le chrétien doit être prêt à accepter. Et ça fait partie de la vie chrétienne. On parlait des sportifs tout à l'heure. Ceux qui arrivent et qui arrivent même pas forcément le premier, mais tous ceux qui participent aux Jeux Olympiques, accepte cette part de souffrance. Il y a une part de souffrance, de travail, de persévérance, de constance, de sacrifice. Voilà, il y a forcément une part de souffrance pour atteindre un objectif. Et les souffrances dont l'apôtre Paul il parle là, il parle des mensonges. Il dit au verset 11, pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Puisque ces faux docteurs disaient, mais si l'apôtre Paul, il a dit que vous pouvez vous faire circoncire, il faut le faire. Mais ce n'était pas vrai. C'était des mensonges. Et parfois, quand on est chrétien, on est confronté à des mensonges. Des gens qui disent du mal de nous. des gens qui mentent à notre sujet. Et si on sait qu'on est dans la vérité, si on sait que voilà, on n'a rien à se reprocher, voilà, mais ça fait partie aussi, malheureusement, des souffrances qu'on doit endurer pour Christ, le mensonge des autres. Il parle aussi du scandale de la croix. Il dit le scandale de la croix est donc aboli, parce que l'apôtre Paul, ce qu'il prêchait, c'était la croix. La prédication de la croix, Jésus-Christ est le sauveur qui a donné sa vie sur cette croix. Et il y a certains, mais pourquoi il faut croire à un homme qui est mort sur une croix? C'est honteux, c'est déshonorant, etc. Oui, mais c'est la gloire du chrétien. Jésus-Christ a donné sa vie sur cette croix. Il a accepté la mort la plus atroce, ce que l'homme pouvait, dans toute son imagination, et ô combien l'homme est imaginatif pour la souffrance, pour le mal. Ce que l'homme a imaginé de plus dur, le Seigneur Jésus l'a accepté et il a donné sa vie sur cette croix. Il a pris sur lui ma malédiction. Il a été enseveli, mais il est ressuscité. Le Seigneur a eu la victoire sur la mort. Il est ressuscité. Et donc, chacun doit, et pour être sauvé, il faut accepter et il faut croire que la croix de Jésus-Christ est là notre salut. Donc, demeurons fermes, frères et sœurs. Continuons notre course, même si les temps sont difficiles. Mais ces temps difficiles ne doivent pas nous décourager. Nous sommes éprouvés, alors ne soyez pas découragés malgré tout. Bien au contraire, restez attachés à la parole de Dieu. Trouvez dans la parole, dans la lecture, dans la méditation de la parole, dans la prière, la force pour pouvoir supporter et accepter, affronter les difficultés que vous rencontrez. Puisque vous savez que le Seigneur, il est là avec vous. Donc, oui, le Seigneur nous a donné une pleine liberté, mais cette liberté ne nous donne pas le droit de faire n'importe quoi. Nous sommes maintenant sous le joug de notre Seigneur Jésus-Christ, et ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous aimions les uns les autres et que nous nous mettions donc à son service en servant les uns et les autres. Donc, le Seigneur vous bénisse, que sa parole vous fasse du bien. Et nous aide tous à continuer cette course dans laquelle nous nous sommes engagés. Et pour ceux que nous connaissons qui sont chancelants, qui ont envie d'abandonner, on voit que leur foi n'est pas aussi ferme qu'avant. Il est bon de leur rappeler ces vérités. Voilà, prions. Oui, par la force du Christ, je tiendrai. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. L'apôtre Paul a dit aussi, oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ô notre Dieu, merci pour ta parole en ce matin. Merci pour cette liberté que tu nous as accordée, que nous avons en toi. Et merci Seigneur parce que tu nous as libérés de la malédiction de la loi. Tu as enlevé ce fardeau aussi qui était le péché qui nous empêchait d'avancer et qui nous conduisait directement en enfer. Tu nous as libérés de cela et tu nous as donné la vie éternelle. Et tu dis, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je te prie mon Dieu de parler au cœur des uns et des autres, que chacun puisse se poser cette question, ai-je la vie éternelle? Nous te demandons, Seigneur, que ton esprit puisse convaincre les uns et les autres de péché, de justice et de jugement, et que nul ne remette à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui, car aujourd'hui est le jour du salut. Nous te demandons aussi de nous aider à continuer à demeurer ferme dans cette liberté, à continuer cette course, Seigneur, à regarder qu'à toi, à toi seul, et avec cette merveilleuse espérance que tu nous donnes de savoir qu'un jour Jésus-Christ, il reviendra pour nous prendre avec lui. Aide-nous à à continuer cette course en obéissant toujours à ta parole qui est la vérité, à faire attention à ne pas être influencé par qui que ce soit qui se détourne de ta parole, mais comme ces chrétiens de Bérée, que nous puissions examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Oui, notre Dieu, nous te prions de nous aider et de nous donner la force aussi pour accepter la part de souffrance qui est nécessaire pour notre sanctification également. Donc, je voulais te prier spécialement pour ceux qui sont dans la peine, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui pleurent à cause de telles situations qu'ils sont en train de connaître là. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses les renouveler spirituellement et qu'ils puissent tourner la tête, les yeux vers toi et trouver en toi leur secours et leur sur-appui, leur asile. Notre Dieu, mon Dieu, nous te demandons ton aide, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Accompagne-nous, garde ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pu être là aujourd'hui à cause de la maladie, des personnes âgées, ceux qui sont partis en vacances, garde-les, protège-les. Ceux qui ne peuvent pas partir, que vraiment tu sois aussi leur réconfort, leur soutien, leur aide. Donc, sois glorifié en toutes choses. Garde-nous, Seigneur, du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance au siècle des siècles. Amen.